Marc. Brooklyn. Le temps avait changé. À présent, il faisait plus froid. Le ciel était sombre et le vent se déchaînait. Sur la promenade en bois qui longeait le détroit, les promeneurs frissonnaient, remontaient leur col, se frictionnaient les avant-bras. Au comptoir des vendeurs ambulants, les cafés chauds et les hot-dogs remplaçaient les crèmes glacées. Même les eaux de l'East River avaient pris une teinte vert-de-gris. Dans un soupir rauque, les vagues gonflaient, roulaient et venaient se briser sur les berges en éclaboussant les passants. Sur une tapisserie de nuages gris-perle se détachait la longue silhouette de la skyline du sud de Manhattan. Une succession hétérogène de gratte-ciel, de tailles et d'époques différentes. L'aiguille triomphante du One World Trade Center, l'immense tour Gary, drapée dans sa robe métallique, la façade néoclassique et le toit en pointe du palais de justice. Plus près, juste de l'autre côté du pont, les HLM de briques brunes du quartier de Two Bridges. Claire abandonna son vélo sur la pelouse. Près de la jetée, elle repéra un imposant dôme de verre qui abritait un manège des années 1920, parfaitement restauré. Le carrousel était comme posé sur l'eau. La juxtaposition des vieux chevaux de bois et de la ligne de building que l'on apercevait à travers la gangue de verre avait quelque chose de troublant et d'hypnotique. Tenaillée par l'inquiétude, elle plissa les yeux, détaillant chaque cheval, chaque montgolfière, chaque avion à hélice qui tournait au rythme entraînant d'un orgue de barbarie.
« Coucou Théo !»
cria-t-elle en reconnaissant enfin le fils de Raphaël, assis à côté de Marc Karadec dans une diligence modèle réduit. Elle sortit $2 de sa poche, paya son ticket et attendit que le plateau circulaire s'immobilise pour venir les rejoindre. Le bambin était aux anges et lui fit la fête. Il tenait dans ses petites mains le cookie gigantesque que Marc lui avait offert. Sa bouille ronde ainsi que le plastron de sa salopette étaient maculés de chocolat, ce qui semblait le réjouir.
« Y a des pépites !»
lança-t-il en montrant son biscuit, très fier d'avoir appris un mot nouveau. Si Théo était en grande forme, Karadec avait l'air épuisé. Des rides profondes creusaient son front et striaient le contour de ses yeux clairs. Sa barbe hirsute lui mangeait les trois quarts du visage au teint gris. Son regard vide et sans éclat donnait l'impression qu'il était ailleurs, comme coupé du monde. Alors que le manège repartait, le tonnerre commença à gronder. Claire se casa sur le banc de la diligence face à Karadec. Vous êtes le père de Louise Gauthier, n'est-ce pas ? Le flic resta silencieux quelques secondes, mais il savait que l'heure n'était plus à la dissimulation. L'heure était justement à cette grande explication qu'il attendait depuis 10 ans. Il regarda Claire dans les yeux et entreprit de lui raconter son histoire.
Lorsque Louise a été enlevée par Kiefer, elle avait 14 ans et demi. 14 ans, c'est un âge compliqué pour une fille. À l'époque, Louise était devenue tellement insupportable et capricieuse qu'avec ma femme, nous avions décidé de l'envoyer passer Noël en Bretagne, chez mes parents.
Il s'arrêta pour réajuster l'écharpe de Théo.
Ça me fait mal de le reconnaître aujourd'hui,
soupira-t'il.
Mais notre petite fille nous échappait. Il n'y en avait plus que pour les copains, les sorties et les conneries en tout genre. Ça me rendait fou de la voir comme ça. Pour te dire la vérité, la dernière fois qu'on s'est parlé tous les deux, on s'est violemment disputé. Elle m'a traité de connard et je lui ai balancé une paire de baffes.
Étouffé par l'émotion, Marc ferma les yeux quelques secondes avant de continuer.
Lorsqu'elle a appris que Louise n'était pas rentrée, ma femme a d'abord cru à une fugue. C'était pas la première fois que la petite nous faisait ce genre de choses. Aller dormir chez une copine et revenir 36 heures après. Moi, par des formations professionnelles, j'ai commencé à enquêter tout de suite. J'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours. J'ai remué ciel et terre. Mais je pense pas qu'un flic soit plus avisé lorsqu'il enquête sur une affaire qu'il concerne directement. Ce qu'il gagne en implication, il le perd nécessairement en discernement. Et puis ça faisait 10 ans que je travaillais à la BRB. Mon quotidien, c'était les braqueurs et les voleurs de bijoux, pas les enlèvements d'adolescentes. Pourtant, j'aime à penser que je serais parvenu à retrouver Louise, si j'étais pas tombé malade une semaine après sa disparition.
Vous êtes tombé malade ? Quelques secondes, Marc soupira en se prenant la tête entre les mains.
C'est une maladie étrange, mais que tu dois connaître en tant que médecin.
Le syndrome de Guillain-Barré. Claire hocha la tête. Une atteinte des nerfs périphériques due à un dérèglement des défenses immunitaires.
C'est ça. Tu te réveilles un beau matin et t'as les membres en coton. Des fourmis courent dans tes cuisses et tes mollets, comme si t'étais traversé par un courant électrique. Et puis assez vite, tes jambes s'engourdissent jusqu'à être complètement paralysées. La douleur remonte sur tes flancs, ta poitrine, ton dos, ton cou, ton visage. Tu restes sur ton lit d'hôpital, congelé, pétrifié, changé en statue. Tu peux plus te lever, tu peux plus avaler, tu peux plus parler. Tu peux plus enquêter sur l'enlèvement de ta fille de 14 ans. Ton cœur s'emballe, pulse, devient incontrôlable. Tu t'étouffes dès qu'on te met de la nourriture dans la bouche. Et comme tu peux même plus respirer, on te fout des tuyaux partout pour que tu crèves pas trop vite.
Assis à côté de nous, et bien loin de nos préoccupations, Théo s'émerveillait de tout, remuant son petit buste d'arrière en avant, suivant la cadence de la musique.
« Je suis resté dans cet état presque 2 mois », reprit Marc. « Puis les symptômes ont commencé à régresser. Mais j'ai jamais récupéré totalement de cette saloperie. Quand j'ai pu me remettre à travailler, près d'un an s'était écoulé. Les chances de retrouver Louise étaient presque réduites à néant. Est-ce que sans cette maladie, j'aurais pu sauver ma fille ? Je le saurais jamais. De toi à moi, j'aurais tendance à te dire non. Et c'est insoutenable. J'avais honte devant Élise. Résoudre des enquêtes, c'était mon job, ma raison de vivre, ma fonction sociale. Mais j'avais pas d'équipe. J'avais pas accès aux différents dossiers et surtout, j'avais pas les idées claires. Et je les ai eues encore moins lorsque ma femme s'est suicidée.
Le manège commença à ralentir. Des larmes s'étaient mises à couler sur les joues de Karadec.
Élise ne parvenait plus à vivre avec ça, affirma-t-il, les poings serrés. Le doute, tu sais, c'est pire que tout. C'est un poison pernicieux qui peut finir par avoir ta peau.
La diligence s'arrêta. Théo réclama un nouveau tour de manège, mais avant que le caprice pointe son nez, Marc lui proposa d'aller se promener au bord de l'eau. Après avoir remonté la fermeture éclair de son blouson, il prit le bambin dans ses bras et, avec Claire, ils rejoignirent la promenade de bois qui longeait l'East River. Il attendit d'avoir posé l'enfant sur les lattes grisées du platelage avant de poursuivre sa douloureuse confession.
Lorsqu'on a retrouvé le corps carbonisé de Louise chez Kiefer, j'ai d'abord éprouvé une sorte de soulagement. Tu te dis que puisque ta fille est morte, au moins, elle ne souffre plus. Mais la douleur revient très vite, comme un boomerang, et le temps ne répare rien. C'est l'horreur à perpétuité, l'horreur indéfiniment. Ne crois pas toutes ces conneries que tu peux lire dans les magazines ou les bouquins de psycho. Le travail de deuil, la consolation, tout ça, ça n'existe pas. En tout cas, pas lorsque ton enfant a disparu dans les circonstances dans lesquelles est morte Louise. Ma fille n'a pas été terrassée par une maladie foudroyante. Elle n'est pas morte dans un accident de voiture, tu comprends? Elle a survécu plusieurs années entre les griffes du diable. Quand tu penses à son calvaire, t'as juste envie de te faire sauter le caisson pour mettre fin au déluge d'horreur qui déferle dans ton crâne.
Karadec avait presque crié pour que ses paroles dominent le souffle du vent.
« Je sais que t'es enceinte »,
dit-il en cherchant à accrocher le regard de Claire.
« Lorsque tu deviendras mère, tu comprendras que le monde se divise en deux. Ceux qui ont des enfants et les autres. Être parent te rend plus heureux. Mais ça te rend aussi infiniment vulnérable. Perdre son enfant est un chemin de croix perpétuel, une déchirure que rien ne pourra jamais recoudre. Chaque jour, tu crois avoir atteint le pire, mais le pire est toujours à venir. Et le pire, finalement, tu sais ce que c'est? Ce sont les souvenirs qui se fanent, qui s'étiolent et qui finissent par disparaître. Un matin, en te réveillant, tu te rends compte que t'as oublié la voix de ta fille. T'as oublié son visage, l'étincelle de son regard, la façon particulière qu'elle avait de rejeter une mèche de cheveux derrière son oreille. T'es incapable d'entendre la sonorité de son rire dans ta tête. Tu comprends alors que la douleur n'était pas le problème. Et qu'avec le temps, elle était même devenue une drôle de compagne, un adjuvant familier aux souvenirs. Lorsque tu piges ça, T'es prêt à vendre ton âme au diable pour raviver ta douleur.
Marc alluma une cigarette et tourna la tête du côté des embarcations qui voguaient sur le bras de mer.
Autour de moi, pourtant, la vie continuait,
déclara-t-il en exhalant un nuage de fumée.
Mes collègues partaient en vacances, faisaient des enfants, divorçaient, se remariaient. Moi, je faisais juste semblant de vivre. J'évoluais comme un zombie dans la nuit, toujours au bord du précipice. J'avais plus de sève, plus aucun appétit de vivre. Du plomb collé à mes semelles et lestait mes paupières. Et puis un jour, je t'ai rencontré.
Le regard du vieux flic se remit à briller d'une flamme folle.
C'était un matin, à la fin du printemps. Tu quittais l'appartement de Raphaël avant de partir pour l'hôpital. Nous nous sommes croisés dans la cour ensoleillée de l'immeuble. Tu m'as salué timidement, puis tu as baissé les yeux. Malgré ta réserve, c'était difficile de ne pas te remarquer. Mais derrière ta silhouette élancée, ta peau métisse et tes cheveux lisses, quelque chose m'intriguait. Et chaque fois que je t'ai revu par la suite, j'ai éprouvé le même malaise. Tu me rappelais quelqu'un. Un souvenir lointain que j'avais du mal à fixer. À la fois évaporé et encore très présent. Il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver à cerner ce trouble. Tu ressemblais à Claire Carlyle, cette petite américaine enlevée elle aussi par Kiefer, mais dont on n'avait jamais retrouvé le corps. J'ai longtemps repoussé cette idée. D'abord parce qu'elle était absurde, puis parce que je pensais qu'elle ne reflétait pas mes obsessions. Mais elle ne me quittait plus, elle s'était incrustée dans mon cerveau, elle me hantait. Et je connaissais qu'un moyen pour m'en libérer. Relever tes empreintes et demander à un collègue de les entrer dans le FAED. Alors il y a 15 jours, je me suis décidé. Le résultat a confirmé l'impossible. Tu ressemblais pas seulement à Claire Carlyle, tu étais Claire Carlyle.
Marc jeta son mégot sur les lattes de bois et l'aplatit avec son talon comme on écrase une punaise.
Dès lors, j'ai plus eu qu'une seule obsession. T'observer, comprendre et me venger. La vie t'avait parmi sur mon chemin par hasard. Il fallait que quelqu'un paie pour tout le mal que t'avais fait. C'était ma mission. Quelque chose que je devais à ma fille, à ma femme, ainsi qu'aux familles des autres victimes de Heinz Kiefer. Camille Masson et Chloé Deschanel. Elles aussi sont mortes par ta faute,
gronda-t-il.
Non,
se défendit Claire.
Pourquoi n'as-tu pas donné l'alerte lorsque t'as réussi à t'échapper?
Raphaël m'a dit que vous aviez mené l'enquête avec lui. Vous savez très bien pourquoi j'ai prévenu personne. Je venais d'apprendre que ma mère était morte. Je voulais pas devenir un phénomène de foire. J'avais besoin de me reconstruire dans le calme.
Le regard fou, Karadec lui fit face.
C'est justement parce que j'ai mené une enquête approfondie que j'ai acquis la conviction que tu mérites de mourir. Je voulais vraiment te tuer, Claire. Comme j'ai tué le gendarme de Saverne, cette pourriture de Franck Muselier.
Soudain, l'enchaînement des événements se dessinait limpide pour Claire. Et comme vous avez essayé de tuer Clotilde Blondel?
Blondel, c'était un accident,
se défendit Marc en haussant la voix.
J'étais venu l'interroger, mais elle a cru que je voulais l'agresser. Et elle a traversé la vitre en s'enfuyant. N'essaie pas d'inverser les rôles. La seule vraie coupable, c'est toi. Si t'avais prévenu de ton évasion, Louise serait encore là, Camille et Chloé aussi.
Écumant de rage, Marc attrapa Claire par le bras et lui cria toute sa peine.
Un simple coup de fil! Un message anonyme laissé sur un répondeur! Ça t'aurait pris une minute et t'aurais sauvé 3 vies! Comment oses-tu prétendre le contraire?
Effrayé, Théo se mit à geindre, mais cette fois, il ne trouva personne pour le consoler. Claire se dégagea de l'emprise de Marc et lui répondit sur le même ton.
La question s'est jamais posée en ces termes! J'ai jamais pensé une seule seconde qu'il pouvait y avoir d'autres personnes détenues avec moi!
Je te crois pas!
Rugit-il. Théo sanglotait maintenant, spectateur de leur affrontement.
Vous étiez pas dans cette putain de maison avec moi!
Hurla Claire.
J'ai passé 879 jours enfermé dans une pièce de 12 mètres carrés, le plus souvent enchaîné, parfois avec un collier en ferraille autour du cou. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, c'était atroce. Oui, c'était l'enfer. Oui, Kiefer était un monstre. Oui, il nous torturait. Oui, il nous violait!
Pris au dépourvu, Marc baissa la tête et ferma les yeux, comme un boxeur acculé dans un coin du ring.
Kiefer m'a jamais parlé d'autre fille, vous m'entendez? Jamais!
Assura Claire.
J'étais enfermé tout le temps! En 2 ans, j'ai dû voir le soleil à 5 reprises, et pas une fois j'ai songé que je pouvais ne pas être seul dans cette prison. Malgré ça, je porte cette culpabilité en moi depuis 10 ans. Et je crois que je la porterai toujours.
La jeune femme baissa d'un ton, recouvrant son sang-froid, et se pencha pour prendre Théo dans ses bras. Tandis que le petit garçon se blottissait contre elle, pouce dans la bouche, elle poursuivit sur un ton plus grave.
« Je comprends votre rage devant cette injustice. Tuez-moi si vous pensez que ça allégera le moins du monde votre peine. Mais ne vous trompez pas de combat, Marc. Il n'y a qu'un coupable dans cette affaire. C'est Heinz Kiefer. »
Mis au pied du mur, Karadec resta silencieux, cloué sur place, les yeux fixes et exorbités. Il demeura ainsi 2 bonnes minutes, immobile dans le vent glacé. Puis, lentement, le flic en lui refit son apparition. Sans qu'il sache trop pourquoi, un détail apparemment sans importance traînait toujours au fond de son esprit. Une question qui était demeurée sans réponse. Une simple interrogation revenue à 2 reprises dans l'enquête. Et 2, pour un flic, c'est 1 fois de trop.
Avant d'être enlevé, tu disais tout le temps que tu voulais devenir avocate,
fit-il remarquer.
C'était quelque chose de très ancré en toi.
C'est exact.
Mais après ton évasion, t'as changé radicalement de projet professionnel. T'as voulu faire ta médecine envers et contre tout.
Pourquoi ce... C'est à cause de votre fille, l'interrompit Claire. À cause de Louise. C'est ce qu'elle a toujours voulu devenir, n'est-ce pas?
Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment tu sais ça? Tu m'as dit que tu la connaissais pas?
Depuis, j'ai appris à la connaître.
Qu'est-ce que tu racontes?
Claire reposa Théo et sortit de son sac à dos le grand cahier bleu à la couverture cartonnée.
Je l'ai trouvé dans le sac de Kiefer, expliqua-t-elle. C'est le journal de Louise. Je sais pas exactement pourquoi il était là avec l'argent de la rançon de Maxime Boisseau. Kiefer l'avait sans doute repris à votre fille. C'est quelque chose qu'il faisait souvent. Il nous laissait écrire, mais nous confisquait ce que nous couchions sur le papier.
Elle tendit le cahier à Karadec, mais le flic demeura immobile, pétrifié, incapable du moindre mouvement.
Prenez-le. Il est à vous à présent. Pendant sa détention, Louise vous a beaucoup écrit. Au début, elle rédigeait 1 lettre presque chaque jour.
Karadec attrapa le journal d'une main tremblante, tandis que Claire reprenait Théo dans ses bras. Au loin, au début de la promenade, elle aperçut Raphaël qui courait dans leur direction.
« Viens, on va voir papa », dit-elle au petit garçon.
Marc s'était assis sur un banc face à la mer. Il ouvrit le cahier et en parcourut quelques pages. Il identifia tout de suite l'écriture serrée et pointue de Louise et les motifs qu'elle avait l'habitude de gribouiller. Des oiseaux, des étoiles, des roses entrelacées d'ornements gothiques. Dans les marges, à côté des dessins, on trouvait quantité de vers griffonnés, des extraits de poèmes ou de textes que lui avait fait apprendre sa mère. Marc reconnut Hugo. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Éluard, j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Saint-Ex, tu auras de la peine, j'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. Et Diderot, partout où il n'y aura rien, lisez que je vous aime. L'émotion lui serra la gorge. La douleur était revenue, fulgurante, asphyxiante, dévastatrice. Mais elle charriait avec elle un cortège de souvenirs qui se réveillèrent pour jaillir tel un geyser brûlant irriguant son esprit engourdi. À nouveau, Marc entendait Louise. Il reconnaissait son rire, son énergie, les inflexions de sa voix. Elle était tout entière entre ses pages. Elle vivait entre ses pages.